Je ne vais pas rentrer évidemment dans le détail des textes ni français ni européens qui existent ou qui sont en projet, parce que là, en effet, il y aurait de quoi faire une session spécialisée là-dessus. En fait, quand on parle d'identification électronique ou d'identité électronique, la première question à se poser, c'est finalement qu'est-ce que c'est que l'identité ? Et en fait, si on cherche dans les textes en France, on se rend compte déjà que l'identité n'est pas vraiment définie et que les moyens de la prouver ne sont pas non plus exactement définis par la loi, sauf depuis la toute récente loi sur la protection de l'identité qui a été adoptée en début d'année et qui donne des moyens suffisants pour prouver cette identité. Donc on ne sait pas ce que c'est. Mais désormais, la loi dit que si vous avez un passeport ou une carte d'identité, ça suffit pour la prouver. Ça suffit, mais ce n'est pas indispensable. Alors, qu'est-ce que c'est que l'identité ? Donc, si on essaye de creuser, on voit que dans l'identité d'une personne, on se rend bien compte qu'il y a des éléments d'état civil. Donc, c'est l'identité un peu au sens régalien du terme, celle qui est basée sur les registres. Donc, vous allez avoir le nom de famille de la personne, le nom de ses parents, l'identité de ses parents. Donc là, on voit que le problème est un peu un problème récursif, puisque l'identité d'une personne est définie à partir de l'identité de ses parents. Il peut y avoir le sexe de la personne, évidemment, sa date et son lieu de naissance, et donc les mêmes éléments pour leurs parents. On voit que donc tout ça, ce sont des éléments qui sont imposés à une personne dès qu'elle est née. Vous avez également des éléments sur lesquels il peut y avoir le choix. Évidemment, le prénom de la personne est un élément qui, à sa naissance, est complètement vierge, mais une fois ensuite qu'il a été donné, il devient définitif. Donc tout ce que j'ai énuméré jusqu'ici, a priori, sauf décision judiciaire, ce sont des éléments d'état civil qui vont être permanents pendant toute la vie de l'individu, et donc ils peuvent servir à définir son identité. Ensuite, dans la vie courante, il y a d'autres éléments, alors je dirais peut-être pas d'identité, mais plutôt d'identification, qui vont varier au fil du temps et qui vont servir selon les occasions. Il peut y avoir des surnoms, des noms d'usage. Dans certains cas, une personne va devoir aussi préciser quel est son domicile. Si on regarde ses papiers d'identité, il va y avoir des éléments qui vont avoir trait à sa reconnaissance physique. Donc ça va être sa taille, la couleur de ses yeux, sa photo. Donc on voit que là, il y a des éléments éminemment variables. C'est-à-dire la taille varie au fil de l'âge. La photo varie évidemment avec le temps. Le domicile varie. Donc on arrive à cerner que dans les éléments d'identité, il y a des éléments permanents, des éléments variables. Et puis, selon les situations, on peut avoir besoin de l'un ou de l'autre. Dans certains cas, pour des démarches administratives officielles, il vous faudra vraiment l'identité au sens de l'état civil. Dans d'autres cas, si vous ouvrez un compte sur Internet, sur un jeu en ligne, un simple pseudo pourra suffire. Dans certains cas, pour vos relations avec un fournisseur, ça pourrait être un numéro de client qui sera indispensable. Et puis, dans la majorité des cas, en fait, on n'a pas besoin dans la vie courante de l'identité. Et vous pouvez accomplir énormément d'actes de la vie de tous les jours. Vous pouvez prendre le métro, acheter du pain, sans avoir besoin de dire qui vous êtes et sans qu'on ait besoin de le vérifier. Donc finalement, l'anonymat fait quand même 95% des situations de la vie courante. La preuve d'identité, les 5% restants. Et dans le numérique, il n'y a pas de raison que la proportion soit différente. Donc on voit à peu près ce que peut être l'identité dans le monde réel. Ensuite, dans le monde numérique, on peut parler d'identité numérique ou d'identité électronique. Là, je voulais juste souligner qu'il pouvait y avoir quelques confusions dans le langage. Et surtout quand on parle d'identité numérique, en fait, quand on lit différents écrits, on se rend compte que les auteurs mettent parfois deux concepts totalement différents sous ce même terme d'identité numérique. Donc l'identité numérique, si c'est la prolongation de l'identité d'état civil dont je parlais tout à l'heure, c'est celle qui va être là dans le paragraphe du bas au sens régalien, c'est-à-dire un moyen numérique de prouver son identité. Et par contre, vous trouverez beaucoup dans la littérature le terme d'identité numérique utilisé pour décrire l'image que l'individu donne de lui-même sur Internet ou dans le monde numérique. Donc là, ça devient plutôt un synonyme de e-réputation. Ça peut inclure des avatars, donc vous pouvez avoir donc l'identité numérique sur votre vrai nom et puis des identités numériques sur d'autres pseudonymes que vous serez choisi pour construire d'autres avatars, d'autres facettes de votre personnalité. On voit bien que ce n'est pas du tout la même chose en termes de concept. Donc, dans la suite, moi, je vais m'en tenir à l'identité vraiment au sens de preuve d'identité. Donc, d'où la question, comment prouver sur Internet quelle est son identité dans les situations où on en a besoin. Donc, évidemment, pas plus que dans le monde réel, ça n'a besoin d'être systématique. On passe. Et une remarque à ce niveau-là. Vous savez donc que pour la signature électronique, il y a tout un arsenal juridique qui existe depuis une douzaine d'années. En revanche, pour l'identification électronique, alors là, on est complètement dans le vide juridique. Il n'existe rien comme texte en France. Par contre, vous savez que le projet de règlement que vient de lancer la Commission européenne, lui, aborde ce sujet. Donc s'il est adopté, là, la situation va changer. Alors comme je le disais, prouver son identité sur Internet, ça concerne 5% des situations. Si on les liste, on voit que c'est à chaque fois en fait que vous avez besoin réellement de faire quelque chose d'impactant, soit pour accéder à des données qui vous sont réservées, parce que ce sont les vôtres ou ce sont des données auxquelles seul vous avez le droit d'accéder, ou alors pour faire des actions dont vous prenez la responsabilité. Et donc là, il faut bien être sûr que vous êtes bien la personne qui endosse cette responsabilité. Donc bon, on peut trouver tout un panel d'actions. Vous en faites tous les jours sans y penser. Donc on pourrait dire à la limite que ça marche très bien déjà. En fait, ça marche très bien déjà, sauf que vous avez sûrement plein de mots de passe différents pour plein de services. Et si vous appliquez à la lettre les recommandations des responsables sécurité, vous avez des mots de passe de plus de 8 caractères avec des caractères alphanumériques, des caractères spéciaux, des majuscules, des minuscules, indifférents pour chaque service, et vous les changez tous les 3 mois. Que ceux qui appliquent ça lèvent le doigt. Bon, une personne. C'est bien parce que c'est rare qu'il y ait des gens qui lèvent le doigt. Je vois que je n'ai pas levé le doigt non plus. Donc bon, on voit qu'il y a un besoin et que là, on sent quand même qu'en pratique, on a un petit souci d'ergonomie. Alors, on peut quand même faire un certain nombre de choses déjà aujourd'hui, mais aujourd'hui, on les fait difficilement et on aimerait bien les faire de manière plus simple. Ensuite, il y a un certain nombre de services qu'aujourd'hui, on ne peut quasiment pas faire en ligne parce qu'on ne peut pas prouver qu'on est bien soi. Et que donc, si on doit signer le fait qu'on fait cette chose en ligne ou si cette chose est trop importante pour qu'on puisse la faire juste sur un simple mot de passe, mais aujourd'hui, ce sont des services qui n'existent pas. Et s'ils existaient, ça simplifierait bien la vie de tout le monde parce que même si on ne le fait pas tous les jours, au total, on y consacre quand même un certain temps quand on doit les faire sur papier. Donc si on voit en balayant tous ces services, on voit en fait que tout le monde est concerné, c'est-à-dire que nous, en tant que citoyens internautes, nous sommes concernés, mais le secteur public va être aussi concerné en tant qu'administration, et là on l'a vu tout à l'heure avec la présentation d'Hervé Lebars. Le secteur privé va lui aussi être concerné par tous les services, notamment financiers ou notariaux qu'il peut proposer. Et nous sommes aussi concernés éventuellement en tant qu'employés, c'est-à-dire que quand dans notre vie professionnelle nous devons faire quelque chose, nous avons aussi souvent besoin le besoin de prouver qui nous sommes. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a justement l'illustration avec le procès Kerviel d'un cas où un employé a pu faire une fraude, tout simplement parce que sur le système interne de son entreprise, il n'y avait pas suffisamment de moyens de preuve de qui faisait quoi et surtout qu'est-ce qu'il faisait. Et du coup, ça lui permettait de construire des faux justificatifs. Nous sommes aussi concernés en tant que citoyens donc pour les élections. Donc il y a par exemple le cas bien connu de l'Estonie, où le vote par Internet lors des dernières élections législatives a concerné quand même 24% des votants. Donc on voit que c'est quelque chose qui a carrément pris et qui n'est plus anecdotique. Donc puisque visiblement des solutions existe. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'une solution d'identité numérique plus forte que ce qui existe aujourd'hui ? Eh bien parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre d'attaques qui ont lieu sur les différents services. Sur les mots de passe, beaucoup trop de gens choisissent des mots de passe simples, le même pour plusieurs services. Ce qui fait que, évidemment, dès que le mot de passe a été piraté, ces gens-là sont à nu. Il y a évidemment des attaques qui se multiplient comme des attaques de phishing. Alors celle-là, je l'aime bien parce que elle est à la fois en France. Elle commence par de l'anglais. Ensuite, c'est du français avec des caractères cyrilliques. Donc là, c'est une espèce de phishing où le pirate vous tend un piège, mais alors pour tomber dedans, là, il faut vraiment mettre de la bonne volonté. Il faut vraiment le vouloir. Mais depuis, ils se sont un peu améliorés. Donc bon, j'en ai juste sélectionné quelques-uns pour illustrer. Non, on revient à celui. Voilà, mais bon, vous en avez avec tous les en-têtes possibles. Donc quand vous recevez un mail justement de qui semble provenir de l'administration française, vous n'êtes plus sûr si c'est un vrai mail ou un faux. Donc Bercy avait dû avertir les. C'était il y a 2 ans là où Bercy avait dû faire une annonce comme quoi non, c'était pas eux qui faisaient des mails des services fiscaux. Et puis donc ceux qui se font prendre ne sont pas les seuls, puisque même Barack Obama s'était fait pirater son compte Twitter, donc son mot de passe avait été volé. Donc visiblement le mot de passe n'est pas une solution suffisante. Alors si on essaye de faire un peu mieux que le mot de passe, qu'est-ce qui existe? Donc il y a certains services qui essayent des mots de passe à usage unique avec des cartes qui ont. Mais bon, voilà, un témoignage.
C'est super complexe.
Sans compter que je ne vous l'ai pas mis ici, mais vous avez des attaques de phishing où le pirate vous demande de rentrer les 64 codes sur une grille. Sinon, vous pouvez mettre aussi une clé, un certificat dans le poste, mais là, du coup, ça vous enchaîne à un poste de travail. Ensuite, si vous voulez pouvoir réellement prouver qui vous êtes depuis plusieurs endroits, il faut des solutions un peu plus nomades. Alors là, ouais, là ça marche un peu. Il y a un petit problème de sens. Donc vous pouvez avoir soit des OTP dynamiques, soit des certificats qui vont être dans un objet portable, que ce soit une clé USB, une carte à puce, un smartphone, un mini CD. Et enfin, la biométrie. Enfin, aujourd'hui, je ne connais aucune solution grand public qui fonctionne sur la biométrie pour faire une preuve d'identité numérique. En fait, dans les solutions grand public, on voit qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose, ou même rien, pour ce qui est de la France. Par contre, il y a des pays dans lesquels l'État a proposé des solutions à ses citoyens. Donc, une carte d'identité électronique, c'est une carte d'identité à la base, mais avec une puce dessus. Donc, jusque-là, j'allais sortir celle que j'ai, mais finalement, elles vont être à l'écran. Donc, c'est une carte électronique au format carte à puce. Et qui porte aussi de quoi s'identifier sur Internet et de quoi signer en ligne. Donc pour voir... Voilà, merci. Donc voilà toutes celles qui existent en Europe. Donc vous voyez qu'il y a déjà un certain nombre d'États qui l'ont fait. Avec des chiffres de diffusion qui sont assez importants, qui varient beaucoup selon les pays. Revenez s'il vous plaît. Enfin, on voit globalement que vous avez une quarantaine de millions de citoyens européens qui ont déjà ça dans leur poche. Donc qui sont capables, s'ils le veulent, de prouver en ligne qui ils sont et de signer électroniquement. Alors, en France, il y avait un projet similaire qui datait de 2004 et qui a été adopté là en début d'année. Je ne sais pas si vous avez suivi les péripéties de cette proposition de loi. Donc elle a été adoptée en début d'année, sauf que le Conseil constitutionnel a censuré des dispositions de la loi. La création de la base d'empreintes qui était sous-jacente et qui permettait de s'assurer que la carte était bien donnée à la bonne personne. Et puis la puce Internet, c'est-à-dire justement la possibilité de faire de l'identité électronique sur Internet avec cette carte. Donc ce qui reste aujourd'hui du texte de loi, c'est donc cette carte telle qu'elle est là, avec sa puce, mais une puce qui est l'équivalent de ce que vous avez actuellement dans votre passeport, si vous avez un passeport qui date depuis 2006, donc un passeport biométrique, c'est-à-dire dans la puce, il y a votre photo et vos empreintes, mais qui servent juste... en cas, par exemple, de passage à l'aéroport ou passage d'une frontière, pour vérifier que la photo et les empreintes sont bien les vôtres, que vous n'avez pas essayé de falsifier la photo qui est imprimée, et qu'éventuellement, on puisse vérifier que les empreintes correspondent bien aux vôtres. Donc c'est une utilisation passage de frontière, et non pas une utilisation Internet. Donc ça veut dire que pour la France, on se retrouve du coup sans projet de carte d'identité pour l'instant. Alors les cartes d'identité, vous avez vu que chaque pays a donc la sienne. Il n'y a pas en Europe d'interopérabilité parce que l'Europe n'est pas compétente là-dessus. Donc du coup, il faut construire des grosses usines à gaz pour arriver à ce qu'un pays reconnaisse la carte d'identité du pays voisin. Donc les Estoniens l'ont fait. Vous avez vu qu'ils étaient très motivés là-dessus. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un projet de règlement européen qui a été diffusée récemment, mais qui ne prévoit pas non plus une reconnaissance automatique de toutes les cartes de chaque pays par tous les autres. Il va falloir faire à chaque fois du cas par cas. Bon, on va passer. On passe à la suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors sinon, il y a, en dehors des cartes d'identité électronique, il y a d'autres possibilités qui sont que, en fait, l'État n'est pas le seul à pouvoir vérifier qui vous êtes. Après tout, moi, j'interviens ici depuis un quart d'heure sans que vous n'ayez vérifié mon identité. Et en fait, vous faites confiance aux organisateurs du colloque pour savoir qui je suis. Donc finalement, vous voyez que l'université est capable de donner sa caution à l'identité de quelqu'un. Donc ça montre que d'autres acteurs que l'État peuvent le faire. Et donc c'est ce qui est mis en œuvre dans certains pays d'Europe où ce sont soit les banques, soit les employeurs, soit les universités, soit la poste qui vérifient l'identité du citoyen et qui lui remettent ses outils sur différents supports, donc que ce soit des cartes à puce, que ce soit des clés USB ou que ce soit dans les smartphones. Donc vous avez l'exemple là par exemple de SwissID, donc qui est disponible chez plusieurs émetteurs suisses, dont la Poste, là en jaune. Je viens de lire là qu'ils sont en train de lancer cette application sur téléphone mobile. Donc moi je me suis acheté un SwissID là comme celui qui est la clé USB noire là qui est au centre. Pour cela j'ai dû aller à la poste centrale de Berne, montrer mon passeport, signer des tas de papiers, faire ensuite des échanges de mails pour prouver que j'étais bien le titulaire du compte mail associé, moyennant quoi, et payer 300 €, et moyennant quoi j'ai reçu la superbe clé USB qui est là, qui contient tous les éléments de sécurisation. Mais je pense que le modèle économique à 300 € la vente au détail, je recommanderais pas ça pour la France. Donc l'idée de, enfin dans tous ces systèmes, que ce soit la Suisse ou ailleurs, le principe en fait, c'est que plusieurs émetteurs se mettent d'accord sur un standard commun et pour que du coup tous les outils qu'ils émettent soient interopérables et puissent être utilisés chez tous les sites web qui les acceptent. En fait, c'est un peu la transposition dans le monde d'Internet de ce qui se passe dans le monde physique avec la carte bancaire. Ou si vous voyez comment marche CB en France, vous avez un standard CB, des banques émettrices qui ont chacune leur politique commerciale mais qui utilisent toutes le même standard, et puis des commerçants qui acceptent tous les cartes sans se soucier de savoir d'où elles proviennent, du moment qu'elles sont authentiques. Donc l'objectif, c'est de faire pareil sur Internet avec l'identité numérique. Et en fait, les enjeux sont assez importants. Une étude qui avait été faite il y a déjà quelques années, mais qu'on est en train de mettre à jour, avait essayé de compter toutes les dématérialisations qui seraient rendues possibles si les citoyens étaient de manière généralisée dotés de ce type d'outils. Et donc on voit qu'on enchaîne assez rapidement les centaines de millions ou les milliards d'euros par an. Ce qui finalement n'est pas si étonnant si on se réfère aux économies que la sécurité sociale réalise actuellement avec la carte vitale. Aujourd'hui, la carte vitale est quelque chose que vous utilisez en moyenne une dizaine de fois dans l'année. Ça fait donc une dizaine de papiers en moins dans l'année pour chaque assuré. Et avec ça, la Sécu économise 1 milliard par an d'euros. Donc voilà, donc les chiffres là, les enjeux qui se chiffrent en milliards, c'est un ordre de grandeur crédible. Donc on espère donc qu'en France, des solutions verront le jour, soit côté carte d'identité électronique, soit côté label. Et donc c'est sur quoi il faudra travailler dans les années à venir.